France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 6 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la vaccination pour tous, pas encore pour tout de suite, mais la campagne s'accélère avec la possibilité pour les plus de 75 ans de se faire vacciner. Qu'en pensent les nouveaux concernés? Reportage en Normandie, dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
Crise du Covid encore quand un restaurateur parisien compte les jours jusqu'à la faillite. Une cinquantaine de militants pro-démocratie arrêtés à Hong Kong. Un an après, qu'a changé pour son auteur et dans le débat public la sortie du livre de Vanessa Springora, Le Consentement. Et puis les premiers pas ce soir du nouvel entraîneur du PSG.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
La star française des dramaturges contemporains sort un nouveau roman, Serge, l'histoire d'une fratrie juive qui s'aime et se déteste et se déchire et va à Auschwitz. C'est désespéré, drôle, brillant, absurde. Bref, c'est du Yasmina Reza. Elle est avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. 8h20, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec le professeur de sociologie à l'Université de Paris, Gérald Bronner. Il publie autre livre, Apocalypse cognitive, aux presses universitaires de France. Vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000.
France Inter.
La vaccination en France, un défi scientifique. Le vaccin Moderna attend toujours le feu vert des autorités européennes. Un défi industriel. L'usine Pfizer en Belgique tourne à plein régime et livre 500 000 doses par semaine à la France. Et un défi humain, car le gouvernement a beau ouvrir la vaccination aux plus de 75 ans, aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans, encore faut-il convaincre. Reportage à Rouen chez un couple de personnes âgées, d'Anne Bertrand de France Bleu Normandie.
À 69 ans, Danielle ne fait pas encore partie des personnes prioritaires pour être vaccinée. Mais de toute façon, elle n'a pas confiance en ce vaccin.
Il est venu trop vite, ça n'a pas été étudié par Pasteur, ceux qui s'occupent de ça. J'en sais rien, j'ai pas confiance.
Maurice, le mari, n'est pas du tout de cet avis.
Bah, j'attends le vaccin. J'ai 81 ans, hein. Bientôt 82. Alors je suis parti des vieux, moi.
Mais Maurice est malade et un brin désabusé aussi. Il accepte les risques d'effets secondaires du vaccin.
Faut qu'il fasse bien des expériences sur les personnes comme ça. Comme moi, je suis une personne âgée, si je meurs, ils sauront pourquoi. J'en ai rien à foutre. Ma vie est arrivée au bout. Hein.
Stéphanie Daumont, l'aide à domicile, essaie de remonter le moral au vieux monsieur. Elle se fera vacciner pour protéger les personnes âgées qu'elle côtoie tous les jours et montrer l'exemple aussi. Pourtant, au début, elle ne voulait pas.
Je pense que c'est un vaccin qui a été fait assez rapidement. On ne connaît pas encore vraiment les effets au long terme. Et bon, après, il faut faire confiance aussi. Hein. Puis encore une fois, nous, on montre l'exemple aussi. Hein. Si personne ne se fait vacciner... Et puis aujourd'hui, je pense que la seule arme qu'il y a contre ce virus, c'est bien le vaccin.
Mais Stéphanie Daumont l'avoue, elle connaît beaucoup d'aides à domicile et même des soignants qui sont contre le vaccin.
Hier, plus de 5000 vaccinations ont été réalisées selon les chiffres du ministre de la Santé. 7000 depuis le 27 décembre. 5 à 600 centres de vaccination devraient être opérationnels au 31 janvier. Des centres qui devront être approvisionnés quotidiennement en respectant la chaîne du froid puisque le vaccin développé par Pfizer et BioNTech doit être maintenu à moins 70 degrés. Mais ce n'est pas véritablement un problème, estiment les professionnels de la chaîne du froid qu'a contacté Sébastien Sabiron.
500 000 doses du vaccin Pfizer livrées chaque semaine de janvier, puis une montée en charge début février. Beaucoup de vaccins donc, mais le défi n'est pas dans le volume, estime Gérald Cavalier qui préside Sémafroid, le centre technique de la chaîne du froid.
5 000 vaccins, c'est quelque chose qui fait un peu plus de 20 cm par 20 cm par 20 cm. Donc même quand vous en prenez des millions, ça reste des volumes très modestes. Il ne faut pas imaginer des millions de camions sur les routes pour transporter les vaccins.
Acheminés par Pfizer depuis la Belgique, les vaccins sont stockés dans 100 établissements hospitaliers, un par département, ainsi que sur 6 plateformes logistiques aux emplacements confidentiels. Reste la conservation à moins 70 degrés avant la livraison en EHPAD, ce qui nécessite de certifier tout le matériel en un temps record. Gérald Cavalier.
Nous vérifions sur site, que ce soit sur les plateformes ou dans les hôpitaux, nous allons qualifier les enceintes de stockage qui sont ces super congélateurs à moins 70 avant les premières livraisons de vaccins. Donc c'est un défi de programmation, mais nous intervenons plus vite. Nous en avons déjà fait en décembre sur des sites qui ont déjà contribué à la première vague de vaccination.
Le ministère de la Santé indique que 95 super congélateurs sont déjà mis en service. Reste à livrer celui de la Guyane par avion militaire le 18 janvier, puis Mayotte deux jours plus tard. Mayotte jugée moins prioritaire puisque l'île ne compte aucun EHPAD.
Pas de retard pour les frigos, c'est à lire lire aussi sur franceinter.fr. S'il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences des fêtes de fin d'année sur la progression du Covid, le taux de positivité des tests continue de progresser, 5,4% hier, avec plus de 20 000 nouvelles contaminations enregistrées. Un conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Élysée pour préparer les annonces de demain. Le ministre de l'Éducation nationale a évoqué hier la piste de vacances de février de 3 semaines en cas de nouvelle vague. Des décisions attendues également sur la réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski. Les patrons de bars et de restaurants reçus hier à Bercy, eux, ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir. Les dispositifs de soutien sont pérennisés, voire augmentés, avec un plafond d'aide qui passe de 200 000 à 3 millions d'euros. Une info France Inter ce matin. Alors, cela sera-t-il suffisant? 20 à 30% des établissements pourraient bien ne jamais rouvrir. Delphine Evenou a rencontré un restaurateur du nord-est parisien qui a de plus en plus de mal à tenir. Reportage.
Des plats équilibrés pour les pauses déjeuner des salariés de ce quartier plein de bureaux. Romain Rosier avait bien étudié le marché quand il a ouvert son bar à salade il y a 4 ans. Et ça marchait jusqu'à ce qu'éclate la pandémie.
Nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de tertiaires, c'est-à-dire de bureaux. Tous les bureaux qui se trouvent autour de mon restaurant sont vides actuellement. On travaille à 20 couverts par jour. Ou ouais, d'habitude, avant le premier confinement, on était à 120 couverts par jour.
Son chiffre d'affaires a chuté de 80%. Pour s'en sortir, le quadragénaire fait de la vente à emporter et a multiplié ses partenariats avec les plateformes de livraison. Mais la concurrence est rude et les recettes trop faibles pour couvrir ses dépenses.
Nous avons des charges fixes, que ce soit les loyers, tout ce qui est électricité, tout ce qui est évidemment salaire à sortir parce que ce n'est pas prêt à 100%. Et donc évidemment, même si nous avons des aides, ceux qui ont des gros loyers comme moi, où je suis à 3600 euros par mois et d'autres un peu plus, on ne peut pas s'en sortir.
En quelques mois, l'entreprise de Romain Rosier est passée de 6 à 3 salariés. Le sourire toujours aux lèvres façon méthode Coué, il veut encore croire à l'avenir de son bar à salade.
Il nous faut tenir encore bon.
Et vous pouvez tenir combien de temps là ?
Moi je pense encore un mois et demi, je ne pourrais pas plus.
Le restaurateur a déjà dû mettre la clé sous la porte de son autre établissement, quartier Opéra, après le premier confinement. Il espère pouvoir sauver ce qui lui reste.
La pandémie dans le monde, avec hier plus de 3 930 morts aux États-Unis, un record submergé. Les services d'urgence de Los Angeles ont commencé à rationner l'oxygène et les lits en réanimation. Plus de 1 000 décès également hier en Allemagne, où le confinement est prolongé et amplifié jusqu'à la fin du mois.
Il est 7h08, un mercredi noir, Agnès, pour les militants pro-démocratie à Hong Kong.
Une cinquantaine de personnes arrêtées ces dernières heures en vertu de la très contestée loi de sécurité nationale imposée par Pékin. Un coup de filet qualifié d'attaque contre les droits universels par le futur secrétaire d'État américain. Correspondance à Pékin de Dominique André.
L'opération concerne des figures de l'opposition, comme les anciens parlementaires pro-démocratie James Toh ou Lam Chuk Ting, et des militants plus jeunes. Ils ont été arrêtés pour des motifs de sécurité nationale. Selon plusieurs sources, un avocat américain d'un cabinet hongkongais spécialisé dans les droits de l'homme a été interpellé. John Clancy serait accusé de subversion. Il est le premier Américain arrêté en vertu de la loi de sécurité nationale. Selon le Parti démocratique de Hong Kong, ces arrestations sont liées à des élections primaires non officielles organisées par les partis d'opposition l'an dernier. L'opposition pro-démocratique espérait obtenir la majorité au Parlement local. Le gouvernement chinois avait alors averti que cette démarche pourrait constituer une infraction à la loi de sécurité nationale. Au départ, la loi de sécurité nationale avait été présentée comme nécessaire pour rétablir l'ordre à Hong Kong après des manifestations spectaculaires. Le vaste coup de filet d'aujourd'hui montre qu'elle est une nouvelle étape pour que Hong Kong rentre dans le rang. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et aux États-Unis, tous les yeux sont tournés vers la Géorgie, où les 2 postes de sénateurs en jeu donneront le ton de la présidence Biden. À l'instant, le démocrate Raphaël Warnock revendique la victoire. Nous serons en direct d'Atlanta dans le journal de 7h30. Retour en France où la justice s'est finalement saisie de l'affaire Olivier Duhamel en ouvrant une enquête pour viol et agression sexuelle. Il y a un an, c'est un autre livre qui dénonçait les agissements d'un prédateur sexuel. Le consentement de Vanessa Springora sort aujourd'hui en poche. Ilana Mouyoussef a demandé à l'auteur ce que ce livre a changé pour elle et dans le débat public.
Elle a connu une année sans répit. Depuis un an, Vanessa Springora jongle entre son métier, directrice d'une maison d'édition, Macron et les sollicitations de la presse française et étrangère. Le consentement a été acheté dans 22 pays. En France, à la grande joie de l'auteur, le livre paraît en format poche.
Je suis très heureuse qu'il sorte en poche et de pouvoir atteindre un public plus large et notamment un public plus jeune. Ce texte peut être lu par des adolescents et des jeunes gens, étudiants, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un livre en grand format parce que c'est trop cher.
Vanessa Springora trouve très courageuse les deux élus écologistes qui ont réclamé le départ de Christophe Girard de son poste d'adjoint à la mairie de Paris. Il n'a pas commis d'acte délictueux, dit-elle, mais il a participé à un système de connivence qui a duré des décennies. Quant au scandale qui a éclaboussé le prix Renaudot...
C'est au jury Renaudot lui-même de faire son autocritique, c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils ont à faire. Ce livre, je ne l'ai pas écrit dans l'esprit d'une désignation de coupable ou d'une chasse à l'homme en ce qui concernait Gabriel Matzneff. Mon propos était plutôt de lancer une réflexion que de lancer des anathèmes. On a des réflexions de courte vue parce qu'on est dans l'immédiateté, la sortie du livre et de ses effets, mais ça ne sert à rien que les choses bougent trop vite.
Un jour, Vanessa Springora en est sûre, elle écrira un autre livre, quand le consentement aura cessé d'occuper son temps et son esprit.
Le secteur de l'édition qui résiste plutôt bien à la crise avec une baisse de 3,3% des ventes en 2020 par rapport à 2019 malgré des librairies fermées durant plusieurs semaines. Mention particulière pour le Goncourt. L'anomalie d'Hervé Le Tellier devrait bientôt passer la barre des 800 000 exemplaires vendus. Il est le deuxième Goncourt le plus vendu de l'histoire derrière L'Amant de Marguerite Duras. Enfin, il sera ce soir pour la première fois sur le banc des entraîneurs du PSG. L'Argentin Mauricio Pochettino et son équipe se déplacent à Saint-Étienne pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Ce sera sans doute un peu tôt pour juger de l'effet Pochettino, mais il est sûr, Cédric Guillou, l'attente est très forte.
Comme tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain à leur arrivée, Mauricio Pochettino déborde d'ambition. Ça tombe bien, il a été recruté pour gagner la Ligue des Champions.
For Paris Saint-Germain and for any club, the Champions League.
Sans aucun doute que la Champions League pour un club comme Paris Saint-Germain, pour d'autres clubs européens, c'est la compétition la plus importante.
Pour parvenir à gagner cette Ligue des Champions, l'entraîneur argentin, décrit comme exigeant et pointilleux, souhaite mettre en place une mentalité, une philosophie de jeu basée d'abord sur le collectif, tout en respectant en dehors du terrain, les différents étages du club. Le consultant foot de Radio France, Jérôme Alonso, a été son partenaire au Paris Saint-Germain au début des années 2000.
C'est important aussi que quelqu'un qui ait le respect de l'institution et le respect du travail et les valeurs du club ancrées en lui. Je sais le travail qu'il a fait quand il a été coach, je sais sa passion pour le football, je sais sa passion pour le travail bien fait. C'est une histoire commune à écrire.
Mauricio Pochettino, qui n'a rien gagné jusqu'à présent en tant qu'entraîneur, sera évidemment jugé sur ses résultats, surtout en Ligue des Champions, sur son aptitude à gérer un vestiaire capricieux. Ces dernières saisons, beaucoup d'entraîneurs sont arrivés au PSG avec des convictions, des idées, pour finalement échouer.
Et c'est décidément la soirée des premières, puisque ce seront les premiers pas ce soir pour Raymond Domenech avec le FC Nantes au stade de la Beaujoire face à Rennes.
Merci Agnès Soubiran.